Au début du mois de septembre, et pour la première fois en France, s'est tenu un important congrès scientifique consacré aux études de genre. Durant 3 jours, l'École normale supérieure de Lyon a accueilli 550 participants venus écouter quelque 300 communications scientifiques sur des thématiques balayant tous les champs de la connaissance. Ce congrès était organisé par l'Institut du genre, structure de recherche du CNRS et des universités, rassemblant 34 partenaires académiques et institutionnels. Sa vocation est de contribuer à la reconnaissance et à l'extension géographique de ses recherches. Pour l'occasion, l'Institut du genre a reçu quelque 700 propositions de communication en l'espace de 3 jours, signe parmi d'autres du dynamisme d'un domaine de recherche en pleine structuration. Un processus dans lequel le CNRS joue un rôle moteur depuis 2010, faisant des études de genre un axe prioritaire de développement des sciences humaines et sociales, mais aussi au-delà, le genre devenant un outil pour toutes les disciplines. La Wikiradio du CNRS vous propose un reportage radiophonique sur cet événement qui fera date dans l'histoire des études de genre en France. Ce reportage est construit à partir d'interviews d'acteurs institutionnels et de chercheurs qui ont accepté de nous donner un aperçu de leurs travaux en cours. Patrice Bourdelais, vous êtes directeur de l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS. Quel est l'enjeu des études de genre ?
La thématique du genre a connu des grandes années dès les années 70-80 avec des études féministes, une première génération de collègues historiennes, sociologues, politologues qui ont été vraiment des pionnières dans ce domaine de l'étude des rôles sociaux au fond de chacun des deux sexes, voilà, et de leur dynamique. Donc ça, c'est dire qu'il y a une tradition en France d'études féministes au moins et sur la place des femmes dans la société. Aujourd'hui, ce qui est devenu cette question des études sur le genre est un petit peu différent, un petit peu plus large aussi, et concerne beaucoup de domaines, y compris de sciences expérimentales. Et c'est l'intérêt pour nous, si vous voulez, c'est à la fois de considérer que dans une société où il y a une inégalité entre les deux sexes pour l'accès aux grandes carrières, l'accès aux soins même, c'est pas toujours dans le même sens, mais voilà, il faut que, pour que ce soit porté politiquement dans une société, on prenne en compte de façon sérieuse ces questions comme des questions de recherche aussi. Et donc on peut pas imaginer d'un côté, par exemple, avoir une politique de parité et d'égalité professionnelle, si au même moment, les études de sociologie, des professions ou d'économie ne le prennent pas du tout en charge comme sujet de recherche très important.
Anne-Emmanuelle Berger, vous êtes directrice de l'Institut du genre. On entend souvent que la France a pris du retard dans le domaine du genre. Qu'en est-il exactement ?
Les recherches dans le domaine qu'on appelle le domaine du genre aujourd'hui, elles ont en réalité à peu près 40 ans, mais c'est leur institutionnalisation qui a été freinée en France. Et c'est le paradoxe, puisque la pensée française a joué un grand rôle dans ce domaine, mais néanmoins, alors qu'on voyait fleurir partout, dans le monde anglophone, dans les Amériques, en Europe, ailleurs, des programmes en études de genre ou des centres de recherche, en France, la recherche n'avançait pas parce qu'elle n'était pas reconnue et tout ce qui ne porte pas l'estampille de l'État n'arrive pas à vivre dans le système universitaire, les systèmes de la recherche française.
Ce défaut d'institutionnalisation n'a pas empêché les études de genre de se développer en France, parfois en catimini, à travers des colloques, des revues, des thèses, mais aussi des équipes de recherche. À cet égard, le choix de la ville de Lyon, qui accueillait ce premier congrès, n'est pas un hasard, comme l'explique Jean-François Pinton, président de l'École normale supérieure de Lyon.
Accueillir ce congrès, c'est une chance pour tout le milieu académique. Donc une chance pour l'ENS de Lyon parce que, comme on l'a vu, sont réunis ici un tellement grand nombre de disciplines, d'historiens, de sociologues, de philosophes, de littéraires, de scientifiques qui sont impliqués dans la réflexion, qui sont impliqués dans les changements, qui sont impliqués dans la promotion, qui sont impliqués dans la réflexion que la société doit avoir là-dessus, particulièrement en France. Moi, je suis particulièrement fier que tous ces gens-là se rassemblent et fassent le premier colloque de ce genre-là, oui.
Mais au juste, qu'est-ce que le genre et que sont les études de genre ? Comme l'expliquait récemment Pascale Molinier, directrice adjointe de l'Institut du genre au journal en ligne du CNRS, les études de genre introduisent l'idée que les différences que l'on observe entre les sexes et les sexualités sont construites socialement. Partant de là, un vaste champ de recherche s'est ouvert, le genre étant de plus en plus conçu comme un outil ou une méthode applicable à toutes les disciplines. Patrice Bourdelais évoque le cas de la biologie.
Lorsque vous amenez un nouveau regard dans une discipline et quelle qu'elle soit, vous ouvrez de nouveaux horizons et c'est une façon aussi d'aboutir à de nouvelles recherches. Je vous donne un exemple qui n'est pas de sciences humaines et sociales et qui a été développé aux États-Unis à UCLA il y a maintenant 15 ou 20 ans et par les féministes biologistes qui se sont aperçus qu'au fond, dans la recherche en biologie, on tenait rarement compte des sexes et que c'était lié à une construction de genre. C'est-à-dire qu'au fond, on ne prêtait pas attention à la différence entre, sur l'expérimentation animale par exemple, les mâles et les femelles. Ce qui avait des conséquences importantes parce que quand vous passez de l'essai animal sur des mâles, parce que c'est plus simple et moins coûteux, à une phase d'expérimentation sur l'homme et la femme, vous pouvez très bien, à cause des résultats de la première vague, négliger les différences quand vous passez à l'expérimentation en phase humaine et aboutir, du coup, à des résultats en termes de thérapeutique qui peuvent être s'avérer assez négatifs, ce qui s'est produit sur certains vaccins pour les jeunes filles en Afrique en particulier il y a quelques années. Et ce champ, du coup, à partir de cette question des féministes disant en biologie, il y a aussi des sexes et il faut en tenir compte dans nos recherches, ça a permis d'ouvrir une nouvelle revue, Biology and Gender, et d'ouvrir et de maîtriser par ce groupe, au fond, tout un nouveau champ de la recherche internationale. Donc, si vous voulez, il n'y a pas d'un côté le genre comme petit hochet d'un moment combat politique de diverses dimensions d'un côté puis la recherche de l'autre. Non, il y a vraiment une grande question sociale d'une part à laquelle il faut bien que la recherche réponde. Et puis, c'est aussi un atout pour la recherche dans la mesure où vous pouvez déboucher sur de nouvelles questions et de nouveaux territoires de la recherche. Voilà.
En plus de renouveler les disciplines de l'intérieur, les études de genre se diffusent à tous les champs de la connaissance. Sandra Laugier, vous êtes philosophe, directrice scientifique à l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS. Peut-on dire que les études de genre favorisent le dialogue entre les disciplines ?
C'est vrai que le genre, c'est de toute façon, dès le départ, un sujet interdisciplinaire en tant que tel. Alors, à deux titres. D'abord, c'est vrai, on ne parle pas assez de l'interdisciplinarité interne-OSHS. Hein. Le domaine du genre, en fait, c'est vraiment un champ qui s'est constitué uniquement quand on a pensé à mettre ensemble des disciplines qui n'auraient pas fonctionné ensemble. Vous n'avez pas de recherche genre qui sont que en histoire. Hein. Si vous avez des recherches genre en histoire, en fait, elles sont obligées de croiser l'histoire avec la sociologie, avec un examen des inégalités, bon, pour voir comment, par exemple, les familles ont évolué. L'étape suivante, bien sûr, c'était l'interdisciplinarité, hein, mais avec les autres sciences que les SHS. Hein. Donc là, c'était une hybridation encore plus forte et ça a été vraiment une étape particulièrement excitante et productive. C'est vrai que montrer l'importance des différences de sexe dans le domaine médical, en ingénierie, etc., ça c'était quelque chose qui ne venait absolument pas à l'idée des chercheurs français. Et puis en plus, c'est un domaine qui permettait de légitimer encore plus les études de genre, dans la mesure où c'est quand même la seule thématique pratiquement au CNRS où c'est les SHS qui malgré tout mènent la danse conceptuelle, hein, puisque c'est vraiment des questions qui viennent des SHS.
Comme toutes les sciences, les études de genre font appel à des réflexions théoriques, ce qui bien sûr ne signifie pas qu'il existe une théorie du genre. Irène Théry, vous êtes sociologue, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, et vous avez participé à un atelier qui posait la question suivante. Peut-on se passer de théorie ? Quel est votre point de vue sur le sujet ?
On a entendu parler beaucoup ces derniers temps de la théorie du genre. Et ce que nous ne cessons les unes les autres de répéter, c'est que La théorie du genre, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas la théorie du genre, c'est en fait une invention des opposants à la réflexion sur les distinctions masculin-féminin, leur métamorphose, etc. Donc il n'y a pas la théorie du genre. En revanche, il y a tout un ensemble de débats théoriques.
Si cette diversité des approches était effectivement présente pendant le congrès, le mélange des générations était également bien visible. Nous avons d'ailleurs noté une très forte présence de jeunes chercheurs, de doctorants et même d'étudiants. Pourquoi avoir fait ce choix d'ouverture en direction des jeunes chercheurs? Nous avons posé la question à Claude Gauthier, philosophe, professeur à l'École normale supérieure et membre du comité d'organisation du congrès.
Notre ambition, c'est véritablement ce travail de lisibilité et ce travail de transmission de savoir-faire, d'expérience. Et l'une des réussites, en tout cas, nous y tenons, nous, beaucoup, et je crois que c'est déjà perceptible, c'est cette superposition des générations de chercheurs. Il y a effectivement une histoire des recherches dans ce domaine qui est très importante en France, paradoxale, comme l'a dit Anne-Emmanuelle Berger, aussi par certains côtés, mais il y a aussi cette reprise auquel on assiste et qui fait qu'au moins trois générations se superposent et se superposent sur des thèmes qui sont évidemment extrêmement importants.
Durant ce premier congrès sur les études de genre, de multiples thématiques ont été abordées. Elles étaient organisées selon 12 axes qui allaient de la politique à la géographie, au travail, aux arts, mais aussi aux questions de sexualité, de parentalité, de médias ou d'éducation. La Wikiradio du CNRS vous donne un petit aperçu des travaux présentés. Très loin d'être exhaustif, puisque 54 ateliers se sont tenus durant 3 jours, aperçu qui permet néanmoins d'entrer dans le vif du travail scientifique, ce qui n'est pas si fréquent. Nous remercions les chercheurs qui ont accepté l'exercice périlleux d'évoquer ainsi leurs travaux au pied levé. L'atelier Enquête et catégorie portait sur la démographie des populations dites LGBT, acronyme de lesbienne, gay, bisexuel et transgenre. Wilfried Rowe est sociologue à l'INED. Il nous explique que la prise en compte du genre fait évoluer la science démographique.
Les études démographiques reposent beaucoup sur la statistique, donc sur des questionnaires, sur des éléments qui nécessitent de passer par des questions qu'on adresse aux populations. Et un des intérêts des études de genre, c'est de finalement questionner le sens de ces catégories par rapport à la manière dont on les construit, dont on approche les individus pour les questionner sur leurs expériences personnelles, leurs trajectoires, leurs identités de sexe, etc. Donc c'est vraiment une invitation constante à la réflexivité par rapport aux catégories qu'on utilise et à transposer aussi certaines grilles de lecture, c'est-à-dire que les travaux sur le genre s'intéressent beaucoup à la construction de la différence des sexes, à la hiérarchisation qui en découle et sont aussi des manières de voir les données, les enquêtes tout à fait précieuses qu'on peut transposer à la démographie.
Également sociologue à l'INED, Christelle Hamel donne un exemple précis d'application de ces nouvelles catégories d'analyse. Dans l'enquête nationale sur les violences faites aux femmes, réalisée en 2000 auprès de 7000 femmes de 20 à 59 ans, une nouvelle catégorie d'analyse apparaît, qui est le fait d'avoir eu, au moins une fois dans sa vie, une relation sexuelle avec une autre femme. Christelle Hamel, quel a été le résultat de cette enquête ?
Sur à peu près tous les indicateurs de mesures de violence, que ce soit dans l'espace public, dans le travail, dans la famille, et concernant tous les types de violences, des violences physiques, des violences sexuelles ou des violences verbales ou psychologiques, les indicateurs sont 2 à 3 fois plus élevés. Donc c'est un résultat qui nous montre qu'il y a une vraie justification à réaliser aujourd'hui des enquêtes sur les violences qui permettent de mieux prendre en considération les populations LGBT, puisque visiblement la stigmatisation et l'homophobie que subissent ces personnes sont des éléments qui contribuent à surexposer ces personnes à des comportements violents, à des comportements d'hostilité et d'agression. Donc ce sont bien des phénomènes qui s'inscrivent dans l'ensemble des inégalités entre les sexes, la hiérarchisation des sexes et une forme de contrainte à l'hétérosexualité qui est associée et qui font système, qui permettent d'expliquer cette surexposition aux violences.
Ce travail sera prochainement actualisé et approfondi dans une enquête de l'INED intitulée « Violences et rapports de genre » auprès d'un échantillon de 35 000 personnes. Dans une perspective similaire, un atelier intitulé « Parentalité » présentait les résultats d'une enquête menée auprès d'environ 700 foyers dont les parents sont de même sexe. Cette enquête révèle l'existence de normes alternatives dans ces foyers, avec notamment un partage plus égalitaire des tâches parentales. Martine Gross, chercheuse au CNRS, est spécialiste du sujet.
Peut-être vous le savez, mais les grandes enquêtes emploi du temps montrent que même s'il y a un léger progrès, les tâches parentales sont réparties de manière inégalitaire dans les couples hétéros. Les femmes prennent en charge la majorité des tâches parentales, tandis que les hommes en prennent une partie, un peu plus importante que par le passé, mais malgré tout, il reste une forte inégalité. Alors, indéniablement, il y a plus souvent une grande égalité dans le partage des tâches dans les familles homoparentales, mais c'est un résultat qu'il faut nuancer parce que ça va dépendre beaucoup de l'âge de l'enfant et ça va également dépendre du type de projet parental qui a présidé à la venue au monde, à l'arrivée de l'enfant.
Nous avons également rencontré une psychanalyste, Laurie Laufer, qui intervenait dans le cadre d'un atelier intitulé Psychanalyse et normes, une liaison dangereuse.
Moi, je suis psychanalyste et j'enseigne à Paris Diderot dans une UFR d'études psychanalytiques. Et j'anime un axe de recherche au sein du laboratoire, le Centre de recherche psychanalyse, médecine et société. J'anime un axe de recherche qui s'appelle genre, normes et psychanalyse, dans lequel nous travaillons sur les interactions entre les discours normatifs et la psychanalyse, ou plus exactement, comment parfois la psychanalyse peut produire aussi des discours normatifs. Avec mes étudiants, et bien on travaille avec l'outil du genre, qui est précisément un outil qui permet de déconstruire des discours communs, des discours intimidants, des discours de discrimination, et qui produisent évidemment des différenciations. Alors on dit beaucoup que un des piliers de la psychanalyse, c'est la différence des sexes, et que le genre voudrait effacer, évidemment tout ça est totalement, enfin ça n'a rien à voir avec la question, l'outil du genre. Il est question d'interroger comment politiquement ces différences deviennent des hiérarchisations et des catégorisations. Voilà. Et de fait, à ce moment-là, comment, lorsqu'on se sent minoré, eh bien, ça peut produire des effets psychopathologiques.
Sur le thème de la santé mentale, un autre atelier portait sur la manière dont la médecine intègre la dimension du genre. Laurent Serrault, anthropologue à Aix-Marseille Université, étudie la vision que les psychiatres ont des démarches transgenres. Pour cela, elle écoute et analyse les discours des médecins et des patients lors des consultations.
Les consultants formulent trois types de déclarations. Des déclarations d'intention, je ne suis pas bien, je ne me sens pas bien, je ne suis pas à l'aise dans mon genre. Des déclarations d'identité, je suis un homme, je ne suis pas une femme, je suis transsexuelle. Et des déclarations d'intention, je veux être un homme, je veux être une femme, je veux faire une opération, je veux prendre des hormones. Et donc, voir comment ces déclarations sont mises à l'épreuve par le psychiatre. Alors, les déclarations de situation, je ne me sens pas bien, etc., sont un lieu, effectivement, pour évaluer l'un des critères du trouble de l'identité de genre tel que défini dans le DSM, qu'il faut avoir une souffrance cliniquement significative. Donc là, ça a été un lieu pour moi de comprendre ce que ça veut dire, une souffrance cliniquement significative, puisque ce n'est pas défini dans le DSM. Et puis les déclarations de situation sont des outils aussi pour saisir deux critères majeurs du trouble de l'identité de genre dans le DSM, à savoir l'identification intense et persistante à l'autre sexe et l'inconfort dans son propre sexe. Et donc là on voit que ça renvoie à une construction de l'identité de genre très particulière, qui est l'idée d'une identité intériorisée, propre à la personne, donc l'identité de genre est une propriété de la personne, et ce qui fait que, effectivement, il y a cette construction très particulière, mais ce n'est pas tellement une construction particulière au fond du genre, mais plutôt de l'identité de genre, c'est-à-dire que peut-être que la chose qui achoppe ici, c'est effectivement le terme identité plus que le terme genre, puisque dans la construction classique d'une identité comme propriété des personnes, dans ce cadre-là de la psychiatrie, il faut qu'il y ait une incohérence entre l'identité psychique, identité sexuée psychique, et l'identité sexuée physique. Donc c'est vraiment l'idée d'une intériorité personnelle. La question qui est importante pour tout le monde, y compris pour les consultants, mais aussi pour les médecins qui les reçoivent, c'est: est-ce qu'une transition est un projet intéressant pour la personne? Est-ce que ça, ce projet-là va lui permettre d'être mieux, d'être bien dans sa vie, etc. Donc c'est ça la vraie question. Mais au fond, cette question est masquée par il faut définir qui est cette personne avant d'accepter ou pas sa transition. Et donc en déplaçant ce curseur, peut-être que effectivement, on aurait quelque chose qui ne serait pas une évaluation, qui ne serait pas une réponse à la question qui est cette personne, que le diagnostic devrait venir dire. Cette personne est bien intransexuelle, donc il a le droit à la transition, mais plutôt de rester sur la question véritable qui intéresse tout le monde. Et donc là, on aurait aussi peut-être un espace plus démocratique, moins hiérarchisé, qui ne serait pas entre un médecin qui définit qui est l'autre et qui l'autorise ou lui interdit de faire une transition, mais un espace de délibération pour savoir si effectivement la transition est une bonne solution.
Si les études de genre sont de mieux en mieux reconnues par les institutions, le concept de genre est toujours beaucoup questionné, notamment en France où il a mis du temps à s'imposer. Jules Falquet, maîtresse de conférences en sociologie à l'Université de Paris Diderot, explique ses réserves.
Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse. Le premier, c'est que le concept de genre est parfois un amoindrissement théorique et conceptuel par rapport aux réflexions développées par les mouvements féministes depuis maintenant une bonne quarantaine d'années, sans compter la première vague des mouvements féministes. Et ces mouvements raisonnaient pour une partie d'entre eux, raisonner davantage en termes de rapports sociaux de sexe. En tout cas, c'est une possibilité que permet la langue française, pas nécessairement l'anglais dans lequel le gender a été imaginé. Et donc, le gender, quelquefois, est une manière de, tout en dénaturalisant ce qui est censé être du genre, est basé sur une construction naturaliste du sexe. Alors que on peut faire une analyse plus approfondie et dire que le sexe lui-même est une construction sociale. C'est ce que font des auteurs notamment francophones, comme Christine Delphi quand elle dit le genre construit le sexe, ou bien Colette Guillaumin et Monique Wittig quand elles s'attaquent à l'idéologie de la différence des sexes et quand elles parlent de rapports d'appropriation individuelle et collective entre les femmes et les hommes. C'est une vision résolument antinaturaliste qui va donc plus loin que le genre qui est souvent utilisé, alors quelquefois de manière très très affaiblie, comme un synonyme de femme. Là, c'est clair que ça sert très peu la cause des femmes, et quelquefois de manière un peu moins affaiblie, mais quand même qui prête le flanc à la critique, comme une manière de laisser le sexe comme quelque chose de naturel, de biologique, et donc d'inquestionner.
Dans l'atelier procréation-reproduction, il était notamment question de la forte valorisation dans nos sociétés de l'enfant et de la famille. Dans son travail de thèse, Charlotte De Best a étudié la pression sociale qui pèse sur les outsiders de la parentalité, c'est-à-dire sur les 5% de personnes qui ne veulent pas d'enfants. D'après ses résultats, l'injonction à procréer pèse principalement sur les femmes.
Donc en effet, la pression sociale à concevoir pèse plus sur les femmes, mais notamment parce qu'on leur renvoie toujours un désir naturel d'enfanter, un petit peu l'instinct maternel. On parle assez rarement d'instinct paternel, même si peut-être ça commence à bouger un petit peu en ce moment. Et on voit bien surtout que les enfants sont au cœur de l'égalité femmes-hommes et de la répartition des tâches, puisque d'une certaine manière, la seule conséquence sur les femmes volontairement sans enfants, c'est une conséquence, alors qui n'est pas nulle, hein, mais qui est donc affective au niveau plutôt des amis ou des parents, et pas du tout sur la sphère, notamment la sphère professionnelle, où c'est plutôt bien de ne pas avoir d'enfants.
Autre travail de thèse très intéressant, sur un sujet politique cette fois-ci, Victor Marner, de l'Institut d'études politiques de Bordeaux, a dépouillé plus de 1500 lettres de démission d'élus municipales femmes sur une période de 10 ans en Gironde. Victor Marner, si les femmes démissionnent en proportion plus que les hommes, le font-elles pour des raisons particulières ?
Alors oui, c'est ce que j'ai pu observer, une assez nette différence, c'est-à-dire que j'ai pu isoler un certain nombre de justifications type, hein, après avoir dépouillé 1500 lettres de démission à peu près, et on se rend compte, bien que les hommes justifient plus souvent leur démission pour des raisons professionnelles ou pour des raisons idéologiques, c'est-à-dire un désaccord avec les décisions qui sont émises par le conseil municipal ou pour une mésentente avec le maire par exemple, donc plutôt des querelles personnelles ou idéologiques et des raisons professionnelles, alors que les femmes justifient plutôt leur démission par des raisons familiales, par une nécessité de retour vers la sphère familiale pour s'occuper notamment des enfants et satisfaire effectivement aux obligations domestiques. Soit elles peuvent démissionner aussi pour un sentiment de difficulté à entrer dans le rôle d'élu, autour notamment d'un sentiment d'incompétence technique ou un sentiment d'exclusion, de machisme parfois, qui les conduit à se sentir mal au sein du conseil municipal et à démissionner.
Dans un autre registre, Sandra Logier nous parle de l'influence de certaines séries télévisées sur la société.
Donc les recherches sur le genre se sont étendues ces dernières années à de très nombreux nouveaux domaines qui n'étaient pas encore explorés, le domaine des médias, le domaine de la télévision, les cultures populaires et également les jeux vidéo. Et on a eu dans ce colloque des propositions d'ateliers sur les séries télévisées, sur ces questions, hein, en très grand nombre. Donc c'est un sujet extrêmement vivant et je crois que ce qui caractérise toutes ces nouvelles recherches, c'est qu'elles s'intéresse à des corpus qui sont très populaires, destinés à un large public, et qu'ils considèrent aussi que le genre ne se trouve pas seulement dans des recherches et dans des théories, mais aussi finalement dans ces objets de grande diffusion qui visent aussi à transformer la société, à transformer les mentalités. Et je crois qu'il y a des exemples vraiment frappants donc qu'on a étudié dans ces ateliers. Il y a un certain nombre de séries télévisées qui, non seulement, comme on le dit souvent, ont reflété des changements dans la société, une place plus grande pour les femmes, des séries comme Sex and the City, hein, qui est très connue, donc une série comme The L-Word, hein, qui mettait en scène des lesbiennes à Los Angeles et qui a aussi permis de mettre en évidence l'importance, hein, de ces communautés de femmes. Mais il y a aussi un certain nombre de séries télévisées grand public qui ont vraiment visé à transformer les choses, à influer sur leur public et en particulier sur les adolescents. Et on a pas mal discuté là d'une série qui s'appelle Buffy contre les vampires, hein, qui est une série très importante qui a été diffusée au tournant du dernier siècle, donc dans les années 97 à 2000, qui visait vraiment, en mettant en scène une jeune fille tout à fait ordinaire, mais qui était extrêmement forte et bagarreuse, qui tue les vampires à tour de bras, et qui en même temps est une jeune fille, une lycéenne normale, hein, qui visait vraiment à montrer que toutes les femmes étaient capables de prendre le pouvoir, d'être forte et de casser donc les stéréotypes de la gentille blonde qui se faisait tuer aux premières minutes des films d'horreur. Et tout récemment aussi, et ça a été l'objet de pas mal de discussions, il y a une série très connue qui est Game of Thrones, qui met en scène toutes sortes de personnages féminins très forts, avec en particulier un personnage féminin jeune aussi, une jeune fille, Arya, qui décide que avoir des enfants, avoir une vie de famille, c'est pas ça qui est important pour elle. Ce qui compte, c'est de se battre et d'arriver vraiment à réussir sa vie comme un homme. Et donc, tous ces modèles sont extrêmement importants aussi pour ce qui est de la question du genre.
Pour aller plus loin et prendre la mesure de la richesse des 320 communications scientifiques présentées à Lyon durant ces 3 jours, nous n'en avons évoqué ici que 7. Vous pouvez vous référer à l'excellent programme du congrès qui comprend les résumés des interventions sur le site de l'Institut du genre. Nous l'avons dit, les jeunes étaient très présents lors de cette manifestation. Ils ouvrent de nouvelles voies de recherche et questionnent l'institution dans sa volonté de faire progresser les études de genre en France. EFIGI est une association de jeunes chercheuses et chercheurs qui travaillent sur les études féministes, le genre et les sexualités. Nous avons rencontré Lola González-Quijano, sa présidente.
Alors je pense que les jeunes chercheurs d'aujourd'hui ont conscience que la recherche toute discipline confondue et en dehors du genre n'est pas forcément dans sa meilleure forme à l'heure actuelle. Pour autant, les études de genre ne sont pas dans le même parcours d'institutionnalisation que la plupart des disciplines. Et je pense que les jeunes chercheurs ont très envie de travailler sur ces thématiques-là. Quand on voit les sujets abordés en thèse ou en master, il y a des envies très fortes d'aborder énormément de thématiques, notamment la sexualité qui n'était pas si couverte par les sciences sociales. Et après, je pense qu'on a malheureusement conscience que travailler en genre n'est pas forcément la meilleure porte d'entrée à l'heure actuelle pour réussir une carrière professionnelle, que ce soit à l'université ou au CNRS. Que ce sont des savoirs qui sont reconnus, mais pour entrer dans l'institution, ce n'est pas toujours évident au sein des structures disciplinaires. Et en termes de méthodologie, je pense que ce qu'on apporte beaucoup en tant que jeune chercheur ces dernières années, c'est la question de l'intersectionnalité. Effectivement, de penser le genre en lien avec la classe sociale et la race. Que de plus en plus, effectivement, ces thèmes sont imbriqués. Les jeunes chercheurs essayent de construire leurs travaux en pensant tous ces différents aspects. Et je pense que c'est le cas à la FIJ, mais je pense que dans d'autres endroits où il y a des jeunes chercheurs qui travaillent sur le genre, on est aussi très intéressé par l'interdisciplinarité. Bien que ce soit difficile à faire pour tout le monde et que les structures disciplinaires sont des fois strictes, je pense qu'il y a effectivement de travailler depuis son master ou son doctorat en genre, ça pousse à chercher et à apprécier cette interdisciplinarité.
Si les recherches sur le genre attirent les jeunes et sont de mieux en mieux reconnues, pour autant, il existe encore des résistances. Qu'en pensez-vous, Patrice Bourdelais ?
On voit que c'est une thématique qui est en train de travailler nos sociétés parce qu'il y a peu de discours publics qui soient entièrement cohérents de la part des acteurs. Et ce qui veut dire effectivement qu'on est face à quelque chose qui bouge constamment et à une thématique qui porte en elle-même des tensions fortes et des contradictions internes aussi pour les acteurs. Voilà, c'est ce qui explique, je crois, aussi la violence de certaines réactions. Mais la science est là pour faire bouger les conservatismes aussi.
Nous espérons que ce reportage de la Wikiradio du CNRS vous a intéressé. En conclusion, nous avons interrogé Anne-Emmanuelle Berger sur les suites de ce congrès.
Ce que nous attendons, c'est les bénéfices de cette institutionnalisation, c'est-à-dire nous espérons que ça va se traduire par une reconnaissance au plus haut niveau de ce champ de recherche, éventuellement la création d'une section CNU en études de genre, même si c'est une question controversée, la création de postes, bien entendu, à la fois au CNRS et dans les universités. Ça, c'est le genre de choses que nous espérons. Et puis, bien sûr, ce à quoi que nous voyons déjà se produire à la faveur de ce congrès, c'est-à-dire un élargissement du champ de rayonnement des questions de genre et des études de genre, puisque participent pour la première fois des disciplines qui, jusque-là, se trouvaient absentes de ce type de problématique.
Marisa Palos, bajo una tarde, al verde sotillo de vacía Madrid, porque entonces, pisándole ella, no hubiese más Flandes que ver su país. No hubiese más Flandes que ver su país.